Chapitre 13e. La douleur de la comédienne. Vous voyez, mon cher Courville, me dit Martin Dumas, qu'il était tout à l'heure inutile de nous précipiter. Nous ne pouvions empêcher ce qui est arrivé. Quelques minutes plus tard, nous roulions sur la route que le comte di Villa Charboli avait parcourue comme une trombe. À tous les carrefours, nous trouvions un homme, paysan, promeneur ou garde forestier, qui, d'un geste, indiquait au mécanicien la route à suivre. C'était le fameux cordon d'agent qui tenait Martin Dumas au courant. Il lui avait annoncé l'accident avec une rapidité que n'a pas le télégraphe. Une voiture suivait la nôtre, avec des hommes dedans, des hommes appartenant à Martin Dumas. « Mon cher Courville, me dit mon ami, vous allez maintenant me seconder. Je compte absolument sur vous pour le service que seul vous pouvez me rendre. Je vous suis tout dévoué. Que faut-il faire ? Remplir consciencieusement votre rôle de reporter. Comment cela ? Voici. Vous revenez ce matin d'une promenade en auto avec des amis. En forêt de Saint-Germain, vous avez été le témoin de l'accident terrible dont est victime le comte di Villa Charboli. Comprenez-moi bien. De Martin Dumas, de l'auberge, de la clavette de tige de la direction enlevée, du vol enfolé. Il n'est plus question. Vous vous ignorez tout cela. Vous ne vous occupez que d'une chose, c'est de ce qui va se passer depuis l'accident, depuis maintenant. Votre reportage sensationnel commencera là. Compris. Alors, comme vous allez probablement, avec le chevalier Fontis, ramener à Paris le corps du blessé ou du mort, vous pourrez pousser votre reportage très loin. Vous aurez, sinon le droit, du moins le prétexte, pour pénétrer avant dans la maison du comte, voir ce que moi j'y verrais, me remplacer, vous documenter pour moi. Entendu. Devant le comte, vivant ou mort, je vous abandonnerai. Vous travaillerez pour moi. Faites votre reportage consciencieusement, racontez au public ce qui peut l'intéresser, sans parler bien entendu de nos affaires, et vous viendrez ce soir même chez moi me dire ce qui vous semblera être bon pour moi. Je ferai tout mon possible pour vous contenter. Je ramènerai donc le comte jusque chez lui. Je seconderai, dans cette mission douloureuse, le chevalier Fontis. Mais une fois là, dans la maison, croyez-vous que la belle Elvira ne me reconnaîtra pas, ne se méfiera pas? Les gens même qui entourent le comte et le trahissent savent sans doute que je suis votre ami. Ils se cacheront de moi. Je ne pourrai peut-être rien voir, rien apprendre. Non, la belle Elvira ne vous reconnaîtra sûrement pas. D'ailleurs, vous reconnaîtrait-elle qu'elle doit faire comme si elle ne vous connaissait pas. Nous étions arrivés devant le lieu de l'accident. La voiture avait versé dans le fossé. L'essence s'était enflammée comme un énorme bol de punch. À quelques pas, la voiture du chevalier Fonti stationnait. Le chevalier était arrivé à temps pour arracher aux flammes son ami. Il l'avait étendu sur le rebord du fossé, l'épongeait, essuyait avec son mouchoir le sang qui sortait de la bouche du comte des blessures qu'il portait à la tête. Martin Dumas, descendant de sa voiture, s'approcha du blessé. « Mort ?» demanda-t-il au chevalier. « Non, pas encore. Mais hélas, ça n'en vaut guère mieux. Nous verrons. » Il se pencha sur le comte Villa Charboli et l'examina attentivement. « Ça va bien, » fit-il en se relevant. Le chevalier le regardait faire et demeura quelque peu étonné en l'entendant prononcer avec calme ces paroles. Martin Dumas se tourna. Derrière lui se trouvait son valet de pied qui portait une boîte. C'était une pharmacie de voyage. Le roi des détectives eut vite fait de choisir un flacon dans sa pharmacie, de préparer des bandelettes. De nouveau, il se pencha sur le comte de Villa Charboli, se faisant aider par moi et par le chevalier qui faisait tout son possible pour surmonter sa douleur. Dans les lèvres du blessé, serré, meurtri par le choc, il fit couler quelques gouttes de cordial, puis nous donna au chevalier et à moi la charge de frotter les mains du comte avec un réactif énergique. Lui s'occupait de la tête, il pansait les plaies, déroulait les bandelettes pour arrêter le sang qui coulait des blessures. Au bout d'un moment assez long, le comte parut éprouver du mieux. La vie, qui semblait prête à s'échapper de ce corps fortement meurtri, maintenant s'y trouvait de nouveau retenu. « Ah, monsieur !» s'écria le chevalier, en serrant avec effusion la main du détective. « Vous êtes une providence. Vous avez sauvé mon ami. Merci, merci de tout mon cœur. » Très calme, avec son sourire, Martin Dumas répondit « Vous le voyez, monsieur, les bonnes gens ont grandement raison quand elles disent naïvement « Tant qu'un homme respire, c'est qu'il n'est pas mort, et tant qu'il n'est pas mort, il est vivant. Rien de plus vrai. Je crois que le comte, que vous avez cru sans doute trépassé, et qui, ma foi, semblait bien au premier abord n'être plus qu'un cadavre, va se trouver bientôt en état de supporter le voyage, tout au moins jusqu'à Saint-Germain. »« Pas jusqu'à Paris ?» demanda le chevalier. « Non. » Je l'espérais, mais je vois que ça ne serait pas prudent, du moins avant qu'un médecin n'ait opéré un pansement définitif. Très juste, en effet. Mais où aller à Saint-Germain? Chez qui nous rendre? Où nous adresser? À quel médecin faire appel? Allons au plus pressé, au plus urgent. Je suivrai vos indications avec précision. Voici tout simplement ce qu'il faudra faire. Vous allez arranger votre automobile, après avoir toutefois bien examiné si rien ne cloche en elle, si elle est en bon état et ne recèle pas, comme celle de votre malheureuse amie, un danger. Je comprends. Vous y installerez le comte sur des coussins, et en allant doucement, doucement, vous vous rendrez à l'hôpital civil. Bien, mais nous y acceptera-t-on? On ne refuse jamais les secours à un blessé, surtout dans des conditions pareilles. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas de cela. Mon ami Courville vous accompagnera, et je vais lui donner un mot qui facilitera toute chose. Ah, monsieur, quelle reconnaissance! Martin Huma, sur une feuille de son calepin, écrivit quelques lignes qu'il me remit. Puis il me dit « Vous allez monter avec le chevalier dans la voiture qui nous suivait. Celle du chevalier sera occupée par le comte. Seulement un de mes hommes tiendra le volant, nous serons plus tranquilles. » Attirant le chevalier un peu à l'écart avec moi, il lui dit « Quant à vous, monsieur, à partir de ce moment, vous ignorez ma présence, ma personnalité. Je suis un simple chauffeur qui vous a rencontré sur la route et prêté secours, sans dire son nom. Vous oubliez de même la scène de l'auberge. Personne n'en saura rien. Mon ami Courville fera de même. Il m'oublie et va faire uniquement acte de bon reporter en même temps que de chauffeur complaisant. Qu'on ne cache pas comment nous avons pu nous rencontrer ainsi. Secret en tout point. Entendu? Compris? » Quand le comte sera installé à l'hôpital, vous, monsieur, vous demeurerez auprès de lui, ne le quitterez pas d'une seconde. Pendant ce temps, mon ami Courville prendra pour lui la mission délicate d'aller prévenir Madame Focamore, et se chargera même de la conduire dans son auto jusqu'auprès du comte. Parfait. Moi, je vous quitte. Je n'ai plus rien à faire ici. Et mon temps est précieux. Ma présence est nécessaire ailleurs. Allez, monsieur, allez, fit le chevalier, serrant de nouveau avec effusion les mains du détective. Allez, nous obéirons. Merci, merci. Martin Huma remonta dans son auto et disparut. Quand le comte des Villatures Boalées fut à peu près en état d'être transporté, avec le chevalier et l'aide des hommes que Martin Huma nous avait laissés, de deux gardes forestiers accourus, nous le plaçâmes dans la voiture du marquis, l'étendant sur des coussins, après avoir fait, au moyen de branchages pris dans la forêt, une sorte de litière. Et nous voici en route, lentement, et aussi doucement qu'il se pouvait, vers l'hôpital de Saint-Germain. Je présentai le mot de Martin Huma, et l'admission du blessé fut aussitôt un fait accompli. On le porta immédiatement dans une chambre réservée, et les médecins se mirent en devoir de lui donner les soins que son état réclamait. Pendant ce temps, moi, je rentrais à Paris et me faisais conduire chez la belle Elvira Focamore. Elle habitait avec le comte un petit hôtel à Passy. Quand je me présentais chez elle, la chanteuse était absente. « Sortie, » me dit un domestique, « pour aller faire des achats dans un grand magasin. Madame n'est pas encore de retour, mais certainement ne peut tarder à arriver. » J'attendis un assez long moment, puis pensant à mon reportage et jugeant qu'il était bon de prévenir le secrétaire de la rédaction de me réserver une demi-colonne, je dis au domestique du comte que j'avais une course à faire, que je reviendrais. « Priez Madame Focamore de bien vouloir m'attendre. » Comme je venais à peine de remonter dans mon auto pour me faire conduire au journal, j'aperçus à l'angle de la rue faisant suite à celle sur laquelle donnait le petit hôtel du comte une auto très élégante qui venait dans notre sens. Elle s'arrêta le long du trottoir. Un homme sauta légèrement sur le trottoir. Je tressaillis en l'apercevant. Je venais de reconnaître en cet homme celui qui nous épiait dans la rue d'Amsterdam, celui qui s'était échappé du taxi de Martin Huma. Et dans l'auto qui reprit aussitôt sa marche se trouvait la belle Elvira Focamore. « Retournez, » dis-je au mécanicien, « retournez à l'hôtel du comte. » Pendant ce temps, pendant l'évolution de la voiture, l'homme de la rue d'Amsterdam avait disparu. Je ne le vis plus sur le trottoir. Pour le moment d'ailleurs, cela n'avait aucune importance. Le point sérieux, grave, était seulement celui-ci. Elvira Focamore et l'homme mystérieux qui épiait Martin Huma dans tous ses mouvements se connaissaient. Je l'avais constaté, j'en avais la preuve. Martin Huma ferait son profit de cela, en tirerait les déductions nécessaires. Peu après, mon auto me ramenait chez la belle Elvira Focamore. On venait de lui annoncer une visite. Elle m'attendait dans le petit salon. Elle n'eut pas l'air de me reconnaître et gardait négligemment dans ses doigts ma carte. Voulant assurément me donner le change, elle me demanda « Venez, monsieur, au nom du journal, me demander sans doute mon concours pour une fête, une matinée ?»« Non, madame, je viens m'interviewer sur ma carrière artistique. » Je sentais que tous ces mots étaient voulus et ne cherchais qu'à me tromper. Mais je devinais quelle impatience brûlait la belle Elvira d'obtenir de moi la confirmation de ce que sans doute elle attendait, la mort du comte di Villacciarboli, son prétendu mari. Je jouais moi aussi ma scène nécessaire et me mis au diapason de cette comédienne. « Non, madame, lui dis-je, de mon air le plus attristé. Certes, ce serait une mission charmante que de parler avec vous de vos triomphes de femme du monde et de vos succès d'éminente chanteuse, mais je viens auprès de vous chargée d'une mission tout à fait différente. De quelle mission, alors, monsieur? Vous m'inquiétez. Rassurez-vous, madame, et faites appel à toute votre énergie, à toute votre vaillance. Oh, mon Dieu! Mais vous m'effrayez, monsieur. Vous venez m'apprendre un malheur. » Disant ces mots sur une intonation dramatique, les appuyant de gestes de théâtre, ses yeux, tout en me regardant, brillaient étrangement. Connaissant les sentiments de cette femme, sachant parfaitement qu'elle attendait de moi non la consolation que j'étais censé lui apporter, mais plutôt la confirmation de ce qu'elle espérait, je prenais plaisir à ne pas lui dire tout de suite ce que je venais lui apprendre, à la laisser dans l'anxiété, la perplexité. Évidemment, Elvira Focamores savait que le coup préparé était pour aujourd'hui, qu'il avait dû être tenté, exécuté ce matin. À cette heure même, c'était un fait accompli. Me voyant paraître, elle ne pouvait douter que j'avais assisté au drame, et qu'en ce moment, je venais lui en donner le résultat qu'elle attendait, et dont elle ne pouvait encore avoir, tout au moins complètement, connaissance. Comme je lui disais encore des phrases de circonstance, d'encouragement, et que je lui faisais entendre des paroles de réconfort, énervée, elle voulait me faire arriver au plus vite au but de ma visite. « Mais enfin, monsieur, parlez. Vous voyez dans quelle surexcitation vous me mettez. »«
Précisément, madame, il faut reconquérir votre calme habituel. »
Tirez-moi alors d'anxiété, c'est cette angoisse qui me fait ainsi frissonner. Voyons, que venez-vous m'apprendre? Un malheur qui me frappe?
Pas tout à fait, madame.
Quoi donc alors?
Un accident.
Un accident? Qui me touche, moi? Qui me touche à ce point? Un accident?
Alors elle fit comme si tout à coup un éclair venait de traverser sa mémoire. Dans un geste de douleur, elle s'écria « Mon mari !» Elle ferma les yeux, pencha le corps en arrière, portant une main à son cœur et de l'autre, s'appuyant à un meuble pour ne pas tomber. C'est une des mimiques qu'on enseigne dans les théâtres italiens pour témoigner la grande douleur subite, celle qu'on fait naître en vous tout à coup. À mon tour, mettant dans ma voix le plus d'angoisse possible, faisant comme je l'ai vu exécuter au théâtre, un demi-pas en avant, étendant mon bras vers Elvira, je lui dis
« Madame, au nom du ciel, remettez-vous !»
Nous avions absolument l'air de répéter une scène de comédie de salon. Au bout de quelques secondes, Elvira, ayant assuré son effet de douleur, se décida à ouvrir les yeux. Lentement, elle tourna vers moi sa tête penchée sur son épaule et d'une voix blanche, lointaine.
« Mon mari, soupira-t-elle, mon Adelio, tu es mort ?»
Je me contentais de murmurer « Madame, du courage !» Ce n'était pas à son gré une indication suffisante. Elle voulait la confirmation du malheur.
« Mort, n'est-ce pas ? » me demanda-t-elle. « Il est bien mort. »
J'étendis les bras en croix et les laissai tomber désespérément sans prononcer un mot. Elvira prit cela pour l'affirmation douloureuse et sans le hélas classique qui doit accompagner en scène ce geste, mais que je ne fis pas entendre, elle en acquit la conviction. Dans ses grands yeux noirs, je vis alors briller une lueur terrible, un éclair de triomphe, de joie. Alors, continuant de jouer son rôle, elle se répandit en abondantes lamentations.
« Hélas, hélas! Anlio, mon cher Anlio! Mort, mort !»
Elle joignit ses mains crispées.
« Qui me dit que ce jour finirait dans cette désolation ?»
Je connaissais cette phrase. J'en connaissais même la musique parce qu'elle se chantait aussi. Mais je n'en gardais pas moins mon rôle absolument convaincu et attristé profondément. Elvira, qui croyait de plus en plus me tromper, s'abusait devant mon jeu. Elle poursuivit, se lamentant à présent.
« Oh, Anlio, Anlio!
Ce matin, tu m'as quitté, calme et souriant. Tu es parti dans un rayon de joie, me laissant dans l'atmosphère de bonheur de notre foyer d'amour. Et ce soir, on m'apprend ton trépas. Hélas, avec toi, ma vie est éteinte. Avec ta mort, Mon bonheur est défunt. Ton âme est partie, et mon corps est désormais sans âme. Anlio !»
Puis, plus nerveuse, après quelques sanglots, elle reprit.
« Ce qui était son plaisir devait causer sa perte. » Je risquai une question brusque. « Comment savez-vous cela, madame ?» Elvira cessa tout à coup de sangloter. Elle me regarda avec effarement, et comprenant que l'excès voulu de la douleur venait de lui arracher une parole imprudente, elle essaya de la rattraper. « Anlio n'est-il pas mort d'un accident d'automobile ?» me demanda-t-elle. J'acquis de ce fait la certitude qu'elle était avertie, que le crime dont le comte de Villard-Cerboli était la victime se trouvait déjà connu à Paris. Parmi ses ennemis, au nombre desquels, Martin Numa ne s'y était pas trompé, figurait la belle Elvira. Je répondis, « Il faut, madame, que votre grand amour pour ce malheureux comte de Villard-Cerboli vous ait fait deviner ce qui s'est passé, car je ne vous ai pas dit encore quel malheur je viens vous apprendre, et déjà vous le savez. » Je vis sur la figure de la jolie femme passer une pâleur soudaine, qui d'ailleurs ne dura pas. Les belles couleurs reparurent presque aussitôt. Devinez, hélas, monsieur, devinez le malheur qui me frappe, combien cela m'est facile. Vous allez me comprendre. Quel malheur peut m'arriver? D'assez grand qui nécessite l'envoi d'un galant homme pour me prévenir, me soutenir dans mon affliction, me donner du courage. Quel malheur peut me frapper? Perte d'argent? Je n'ai rien qui ne me vienne de mon mari, et il est riche à l'infini. Deuil de famille? Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de fils, personne. Je n'ai que mon Anlio, que lui a aimé, que lui qui m'aime. Donc facilement j'ai compris qu'il s'agissait d'Anlio. C'est très juste. Or, quel malheur pouvait arriver à mon mari? Comment ne pas le deviner aussitôt? Anlio est parti ce matin pour essayer, m'a-t-il dit, une nouvelle voiture automobile. Anlio est très brave, très courageux, trop, hélas, trop, car sa vaillance tourne à la folie. Il aura voulu faire donner à sa voiture tout ce qu'elle pouvait rendre pour la bien connaître. Anlio est chauffeur consommé, mais sur la route, un obstacle imprévu peut se trouver. Sa machine peut avoir un défaut, une roue qui saute. Vous devinez admirablement, n'ai-je pu m'empêcher encore de murmurer. La belle Elvira s'aperçut une seconde fois qu'elle avait trop parlé. En voulant trop prouver, elle dépassait la mesure. Car on ne devine complètement les événements que quand on les connaît, dit le proverbe des incrédules. Cependant, à mon tour, je ne devais pas commettre cette faute de laisser deviner ce que je savais, et tout naturellement je dis « Madame, maintenant que votre grande affection pour le comte de Villard-Cerboli vous a fait deviner le malheur qui vient de le frapper, il me reste à vous donner quelques détails, tout en vous recommandant d'être forte, d'être courageuse, et de demander précisément à cet amour de vous soutenir dans cette pénible épreuve. Je vous écoute, monsieur. » La belle Elvira alors s'assit dans un profond fauteuil, et cacha sa figure dans un mouchoir de dentelle, coupant de temps en temps mes paroles par des sanglots, aussi vrais que nature, comme on dit en termes de coulisses. Le comte di Villard-Cerboli, dis-je, se promenait en effet ce matin en forêt de Saint-Germain. Il allait à la plus grande vitesse. Le comte est, paraît-il, un chauffeur merveilleux. Mais comme vous le disiez, madame, le plus prudent, le plus habile est à la merci du hasard. La direction a sauté, le volant n'était plus obéi. « Oh mon Dieu ! C'est affreux, c'est horrible. Vous voyez, madame, ce qui a dû arriver, et ce qu'il advint de la voiture lancée à cette vitesse fantastique. C'est épouvantable. La voiture versa dans un fossé. À cette heure, il ne restait d'elle que quelques ferrailles tordues, informes, car elle a brûlé. La belle Elvira sursauta. Brûlée ? S'écria-t-elle. La voiture a brûlé, entièrement. Et le comte ? Brûlé aussi ? Brûlé ? Le comte de Villard-Cerboli ? Ah, madame ! Dans les plus grands malheurs, presque toujours, malgré tout, la main de Dieu se manifeste. Le comte di Villard-Cerboli, projeté en avant sur le bord du fossé, échappa à l'incendie. Mais il est mort quand même? Non, madame, il n'est pas mort. Comme s'il avait peine à croire ses oreilles, elle redemanda. Pas mort? Pas mort? Le comte est vivant? La comédienne, dominant sa stupéfaction, naturelle et vraie, a repris son rôle un instant oublié. Elle s'écria. Vivant! « Il est vivant! Anlio est vivant !» Elle se jeta à genoux sur le tapis du salon et fit entendre, joignant les mains dans un mouvement de ferveur. « Merci, mon Dieu, merci de m'avoir conservé, mon Anlio !» Puis, en se relevant, elle vint à moi. « Vivant, oh, monsieur, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle que vous m'apportez. C'est un gage de joie, de bonheur, c'est la vie que vous me rendez. Vous rattachez mon âme à la terre. » Elle me prit les mains, les serra chaleureusement. « Oh !» poursuivit-elle, ma joie est si grande que les paroles pour vous remercier me font défaut. Je ne sais plus que dire. J'ai envie de rire, de chanter à tout l'univers mon bonheur. J'ai envie de crier « Anlio, mon cher Anlio est vivant !»
Effectivement, elle cria ses dernières paroles. Il me sembla que derrière moi, dans le fond du salon, une portière de tapisserie bougea quand ce cri retentit. Je tournai vivement la tête, mais il me fut impossible de rien voir. La belle Elvira reprit de plus en plus ardente.
« Et maintenant, monsieur, vous venez me chercher pour me conduire auprès du comte, très gravement blessé, sans doute, mais vivant. »
« Oui, madame. Je vous disais que même au plus fort des accidents les plus épouvantables, la Providence manifestait sa puissante intervention. En effet, le hasard a voulu que précisément ce matin, avec quelques amis, nous ayons projeté de déjeuner à Mantes. Nous revenions en automobile et nous fûmes presque témoins de l'accident du malheureux comte di Villacciarboli.
C'est vous qui l'avez relevé, soigné ?
Non, madame. Quelqu'un se trouvait auprès de lui déjà qui lui prodiguait ses soins.
Qui donc ?
Le chevalier Fontis. Elvira poussa un cri de stupeur.
Fontis ? Fontis était là ?
Oui, madame, dans son automobile.
Ah ! Au fait, c'est très logique. Le chevalier et le comte sont des amis intimes. Ils s'aiment comme deux frères. Ils ont dû faire cette promenade ensemble.
Puis vivement.
Mais vous n'avez pas laissé le comte comme cela, blessé, sur la route.
Non, madame. Je viens précisément vous prendre pour vous conduire auprès de lui. Votre présence lui fera le plus grand bien.
Partons. Oh, partons vite. Emmenez-moi. Conduisez-moi auprès de mon mari, auprès de mon Anlio.
Elle sortit cependant du salon et je l'entendis parler vivement en italien au domestique qui m'avait tout à l'heure introduit ici. Puis, revenant,
« Pardon, quelques ordres à donner, mais me voici. Partons, ne perdons plus une minute. »
Elle m'entraînait à présent.
« Mais vous ne m'avez pas dit où vous me conduisiez ?»
me demanda-t-elle devant le domestique qui nous ouvrit la porte. Pressentant que cet homme attendait ce renseignement, je répondis sans paraître y mettre intention.
« Je l'ignore, mais le mécanicien connaît l'endroit, il nous y conduira. »
La belle Elvira, rapidement, tourna les yeux du côté du domestique, qui demeura impassible en apparence, mais je saisis cependant une courte lueur dans ses yeux noirs. Quand la voiture se mit en route, je ne pus m'empêcher de me rappeler ces mots de Martin Numa. Le comte di Villacciarboli se trouve chez lui dans un repère d'ennemis. Et devant ces faits nouveaux, je pouvais ajouter
« L'ennemi dont il a le plus à redouter, son ennemi mortel, c'est cette femme qu'il aime. »
Ainsi s'achève « La belle vampire », tome 7e, des aventures de Martin Numa, le roi des détectives, par Léon Sazy.